Non, très bien, ces séminaires sont l'identité, la destinée, le miracle aussi. Et ce soir, nous voulons prier pour que Dieu fasse un miracle dans vos vies, parce que le miracle est quelque chose qui se déclenche. Vous avez remarqué qu'on peut attendre un miracle pendant des années sans qu'il arrive jamais? Parce qu'un miracle n'arrive pas tout seul. Un miracle est quelque chose qui se déclenche. Qui se déclenche par une offrande, qui se déclenche par quelque chose que Dieu nous demande de faire, et dans l'obéissance, nous libérons le miracle de Dieu. Voilà pourquoi il est si important d'être à l'écoute du Seigneur. Le diable veut nous prendre dans des chemins de traverse, il veut nous égarer sur le chemin de notre destinée, afin de pouvoir remplacer les plans de bénédiction que Dieu a pour nous par ses plans de malédiction. C'est pourquoi il nous faut lutter pour notre destinée. C'est le titre d'un de mes livres, publicité, qui se trouve sur le stand. Vous savez, l'eunuque, lorsqu'il a rencontré Philippe dans le désert, il était en train de lire la Bible, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et lorsque Philippe lui a demandé « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?», il lui a dit « Non, comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Dieu a placé des ministères d'enseignement au sein de son corps. Alors, il y a beaucoup d'abus dans ce domaine, nous sommes bien d'accord, mais des abus, il y en a dans tous les domaines. Enfin, d'aider le peuple à comprendre la parole de Dieu d'une manière qui va le libérer au lieu de la servir. D'où l'importance de lire, de s'instruire, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous pourrez remarquer dans les livres qui sont au stand là-bas, ces kafis de versets bibliques pour bien montrer que notre base, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Comprendre, entrer et rester dans le plan de Dieu pour notre vie est indissociable de l'affermissement de notre identité. Parce que nous avons été créés pour avoir une personnalité particulière, chacun, qui nous permet de faire des choses particulières dans un contexte particulier, celui du plan de Dieu pour notre vie. N'essayez pas d'être moi, je ne dois pas essayer d'être vous, nous devons comprendre qui nous sommes chacun dans le plan de Dieu. Et si vous vous dites ce soir, il a l'air bien gentil ce prédicateur, mais il a l'air un peu bizarre, c'est le plus grand compliment que vous puissiez me faire. Ça veut dire que je suis différent, que je suis original, et Dieu aime les gens originaux parce que Dieu n'aime pas les photocopies. Et le plus grand mal qu'on puisse faire à une personne ou à des pasteurs qu'on est en train de former dans une école biblique, et je crois à la formation de serviteurs de Dieu, c'est d'essayer de les faire devenir nous. Je ne dois pas enfanter d'autres Claude Payen. Ce qui est important pour moi, c'est d'être le meilleur Claude Payen sur Terre. Vous pouvez essayer d'être un meilleur Claude Payen que moi, vous n'y arriverez jamais. Vous devez apprendre à devenir le meilleur vous. Et pour cela, comprendre qui vous êtes par rapport à moi, par rapport à mon appel, dans le plan de Dieu. Et ne pas laisser le diable vous égarer dans cet appel, voire vous relever et repartir de plus belle lorsqu'il a réussi à le faire. Parce que dans cette marche, dans le plan de Dieu, notre identité est supposée s'affermir et se révéler. Mais hors de ce plan, elle va s'affaiblir et rester cachée. Lorsqu'on lit l'histoire de Ruth, en la survolant, les causes et les effets nous échappent facilement. Et si on analyse de plus près cette histoire, nous comprenons beaucoup mieux ce qui se passe. Naomi et son mari Élimélec habitaient Bethléem. Bethléem, ça signifie la maison du pain. Donc c'est le lieu où Dieu avait prévu de les nourrir. Mais sous la pression d'une famine qui est survenue, ils décident de quitter leur pays pour aller au pays de Moab. Et dans le contexte du lieu et de l'époque, c'est quelque chose qui ne se faisait pas de quitter le pays que Dieu nous avait donné pour aller dans un pays d'idolâtres. Et ils sont partis plus poussés par la forme de pensée qui veut que ce soit toujours mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'était plutôt cette forme de pensée que la direction de Dieu. Et nous devons faire attention aux choix que nous faisons sous la pression des événements ou sous la pression des personnes parfois, et parfois même des personnes qui nous aiment ou des personnes qui veulent nous vendre quelque chose. Vous allez acheter une voiture et le vendeur il vous dit « C'est celle-là que vous voulez ?» Je vais vous dire, je vous ferai un prix particulier, mais c'est bon que pour aujourd'hui, si vous la prenez de suite. j'ai la couleur que vous voulez, mais demain elle ne sera plus là. Alors vous êtes là, vous dites, demain elle ne sera plus là. Et vous téléphonez à votre épouse, vous dites, chérie, il faut vite qu'on se décide. Tu te rends compte, demain la couleur ne sera plus disponible. Tu es sous pression et tu fais des mauvais choix. Tu signes des chèques que tu ne devrais pas signer, des contrats que tu ne devrais pas signer, et quand tu arrives à la maison, tu te demandes pourquoi tu les as signés, parce que tu as agi sous pression. Rappelez-vous une chose, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous coûte, il ne veut pas nous mettre sous pression, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc les gens qui, même au nom de Jésus, veulent vous mettre sous pression, veulent vous manipuler, parce que sous pression, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. C'est pourquoi je donne toutes ces détails, j'ouvre toutes ces parenthèses au moment de l'offrande. Parce que moi, je veux de l'adoration. Je ne veux pas de la manipulation. Alléluia. Et alors, pour Naomi et Ruth, c'est l'enchaînement de problèmes et de drames. Élimélec meurt. Puis leurs deux garçons épousent des femmes moabites. Dernière chose à faire, pour un Israélite craignant Dieu à l'époque, Naomi se retrouve plus tard vieille, humiliée et amère. Dans Ruth 1:20, il est dit, et elle leur adressa la parole, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. » En fait, elle croyait même qu'elle était maudite par Dieu. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas Dieu qui vous maudit, spécialement si vous êtes ses enfants. C'est le diable qui vous maudit. Le diable veut nous faire croire que c'est toujours Dieu qui nous juge, toujours Dieu prêt à nous punir et toujours Dieu prêt à nous maudire. Il est question de ne pas établir de nouveaux convertis à la place d'anciens. Il nous est dit, dans l'Écriture, de peur qu'ils ne tombent sous le jugement du diable, pas sous le jugement de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont chuté, lorsque Dieu arrive, ils sont déjà maudits. Ce n'est pas Dieu qui les maudit, il maudit le serpent. Mais ils sont déjà maudits, ils ont déjà honte d'être nus. Est-ce que vous me suivez? Alors n'écoutez pas cette voix qui vous dit que Dieu, il en a toujours après vous. Dieu, il n'est pas là pour maudire. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et pour nous la donner en abondance. Et que Satan, c'est celui qui détruit. Et lorsqu'il a vu cette femme atteinte d'une perte de sang, il n'a pas dit qu'il fallait la dégager de la chaîne que Dieu avait placée sur lui, mais de la chaîne que Satan avait placée sur elle. Amen. Alors, quand on est éprouvé, souvent on est dans la confusion et on croit que c'est Dieu qui nous frappe. C'est ce que croyait Naomi. Elle dit, « Mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Vous avez fait déjà des mauvais choix qui ont entraîné des situations qui vous ont rendu amer. Ça vous est arrivé? Il y a des spécialistes aussi, comme hier soir? Les spécialistes d'hier soir sont venus ce soir. Donc je suis sûr que les spécialistes d'hier soir, vous pouvez bien comprendre le message de ce soir. Des mauvais choix qu'on fait, et puis, oh là là, on se retrouve par la suite amer, déçu. Et Naomi apprend que la situation, par contre, s'est retournée dans son pays qu'elle a quitté. Et elle décide de revenir. Ruth 1:6, alors elle revint du pays de Moab avec ses belles filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Dans ce qu'elle fuyait, c'est-à-dire le malheur, elle l'a trouvé là où elle est allée et le lieu qu'elle a quitté pendant ce temps s'est retrouvé béni. Ça vous est jamais arrivé ça aussi? Vous quittez un endroit pour aller vers un autre? Dans celui où vous arrivez, il y a tout qui se met à empirer, et d'un coup vous vous tournez, tout s'est arrangé derrière. Mais nous avons affaire à des spécialistes ce week-end, alléluia! J'aime bien parler à des gens qui comprennent ce que je dis dans mes messages. Mais c'est quand elle a décidé de revenir, c'est la définition du mot repentance, retour. Quand elle a décidé de revenir au plan original, c'est là que la situation a commencé à rebasculer dans l'autre sens. Sa belle-fille Ruth a décidé de rester avec elle pour prendre soin d'elle. D'ailleurs, elle a déclaré à cet instant, « Ton Dieu sera mon Dieu ». Donc on peut imaginer qu'elle a alors concrétisé une conversion qui était en suspens. qui avait été en suspens pendant plusieurs années. Et je voudrais vous dire que quand vous rentrez dans le plan parfait de Dieu, vous commencez à porter du fruit. Les choses bloquées depuis des années se débloquent dans la journée, dans la semaine. Ruth a décidé d'aller par la suite glaner des épis dans le champ de Boaz. Ruth est devenue un instrument pour la restauration de Naomi en faisant en fait le contraire, conduite par l'esprit bien sûr, de ce que Naomi avait fait. Elle est allée glaner des épis dans le champ qu'il fallait, qui appartenait à la personne qu'il fallait. Boaz lui-même, la voyant et apprenant qu'elle était la belle-fille de Naomi, lui a dit « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici, attache-toi à mes servantes. » En d'autres termes, ne fais pas comme Naomi qui a quitté le lieu où elle aurait dû rester, reste à la bonne place. Hello? Cela ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut être dans la bonne église, où Dieu nous veut. Ça ne suffit pas d'être dans le ministère. Il faut être dans le bon ministère. Ça ne suffit pas de se marier. Il vaut mieux se marier avec la bonne personne. Hein? Quand on se réveille le matin, qu'on n'ait pas à se poser la question, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Boaz précise à Ruth, attache-toi à mes servantes. Mes amis, on ne réussit pas sa destinée seule, même si on se trouve au bon endroit et en train de faire des bonnes choses. Ça ne suffit pas d'être au bon endroit. Il faut s'attacher aux bonnes personnes, aux bons collaborateurs. Vous devez discerner les gens que Dieu vous envoie pour travailler avec vous. Et vous devez aussi discerner ceux que le diable vous envoie. S'attacher, se s'attacher, il me fait penser au verset de Romains où il est dit de s'attacher à son ministère. Coller, s'attacher à son ministère. Nous sommes appelés à être dans le bon ministère, à faire les bonnes choses chacun. Vous savez, c'est dangereux de rester trop longtemps dans un ministère où Dieu ne nous veut pas ou ne nous veut plus. J'ai été pasteur pendant des années, aujourd'hui le pasteur c'est Michael. Regardez, il se trouve perché là-haut. Lui aussi, il fait pas trop pasteur, je suis d'accord avec vous. Parce que j'ai senti que cette onction m'a quitté des choses que j'ai pu supporter pendant des années, je ne les supporte plus aujourd'hui. Par contre, j'ai une onction pour pouvoir en supporter d'autres. Hello? Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de supporter des choses humainement insupportables. Et chaque ministère sera confronté à des choses que d'autres personnes qui n'ont pas été ointes pour les faire, comme eux, ne peuvent pas supporter. Donc il est important de s'assurer qu'on est sous la bonne onction en train de faire les bonnes choses pour que la grâce de Dieu puisse être efficace pour nous. Car c'est elle qui nous permet de tenir. Mais quand on sent que cette grâce s'en est allée, eh bien il vaut mieux suivre la nuée. Amen. Alléluia. Donc je ne suis plus pasteur, Dieu m'a délivré. Mais je crois au ministère de pasteur, à l'importance que de plus en plus il y ait de bons bergers qui se dressent. Alléluia. Et dans le ministère que j'occupe maintenant, je veux encourager les pasteurs. Et dans nos voyages, on n'est pas là pour casser du pasteur. Alléluia. On est là pour bénir les hommes et les femmes de Dieu qui se lèvent. Mais on a certaines précisions à porter. Nous ne sommes pas là pour manipuler le peuple de Dieu aussi. On est là pour le servir, pour le bénir. Amen. Sous l'ancienne alliance, si vous entriez dans le Saint des Saints et que vous n'étiez pas le bon sacrificateur qui devait le faire, vous tombiez raide mort. Il y avait un prix à payer à se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Étant au bon endroit, tant Naomi que Ruth, dans le plan de Dieu, eh bien les bénédictions préparées à l'avance par Dieu, dans ce plan, se sont mises en place les unes après les autres. Vous savez, ne demandez pas à Dieu de bénir vos plans. Demandez à Dieu quels sont ses plans. Et moi j'ai une bonne nouvelle, ses plans, ils sont déjà bénis. Ça dit que dans son amour, il fait tout ce qu'il peut pour bénir quand même nos plans, mais il ne peut pas les bénir d'une pleine mesure. C'est ce que disait un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Dans une vision, Jésus lui a dit que lorsque ses enfants demeuraient seulement dans sa volonté permissive au lieu de se trouver dans sa volonté parfaite, au bout d'un moment, il y a des portes qui s'ouvraient naturellement pour Satan, que lui-même ne pouvait fermer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez noté? C'est bien, vous suivez. Alors, re-rentrant dans le plan parfait de Dieu, se sont mises en place, non pas de nouvelles bénédictions, mais des bénédictions qui étaient déjà là. Vous avez vu les enfants à Pâques? Il y a quelque chose qui se fait souvent, c'est qu'on cache des œufs dans le jardin. Alors les parents ont caché les œufs à des endroits précis, ont mis des flèches, des repères. Si les enfants suivent les directions, ils vont tomber sur les œufs qui ont été placés là à l'avance par les parents. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, s'ils se trompent de jardin, ils peuvent chercher pendant 40 ans. Ils trouveront pas les œufs. Mais il en est de même pour la bénédiction de Dieu. Quand on est à la bonne place, en train de faire les bonnes choses, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, et je vais y revenir, mais à un moment donné, la bénédiction est obligée de monter à la surface. Parce que les plans de Dieu sont déjà bénis. On n'a pas besoin de s'épuiser à jeûner 40 jours. Et je crois à l'efficacité de la prière et du jeûne. Amen. Mais je connais beaucoup de gens qui s'épuisent et qui meurent de trop jeûner, de trop prier. Sans que rien ne se soit passé dans leur vie. Et nous connaissons tous de ces gens qui cherchent toujours la face de Dieu et au lieu de devenir meilleurs, ils empirent. Alors je ne sais pas si c'est Dieu qu'ils rencontrent dans leur recherche. N'oublions pas que lorsque Jésus a été amené, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, la première personne qu'il a rencontrée, ce ne sont pas les anges, c'est le diable. Donc quand on rentre dans le monde spirituel comme les intercesseurs, et il nous en faut, alléluia, il faut faire attention aux rencontres qu'on fait. Il faut y rentrer avec un minimum de discernement. Nous connaissons tous de ces gens qui sont devenus mystiques et qui ne servent plus à rien pour le corps de Christ, sinon passer leur temps à l'accuser alors que leur merveilleux appel au départ était un appel d'intercesseur. Parce qu'ils ont fait les mauvaises rencontres, mais ils n'ont pas reconnu. C'était le diable. Vous me suivez? Étant au bon endroit, tant Naomi que Ruth, les bénédictions dont préparées à l'avance par le Seigneur, pour ce plan, se sont mises en place les unes après les autres. Wouh! Boaz plutôt, ça dépend des traductions. Ne vous moquez pas de moi. Boaz! Ah, il y a des noms dans l'écriture, je préférerais Dupont. Boaz a remarqué Ruth qu'il n'aurait pas vu, logique, s'il n'avait pas été au bon endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Naomi et Ruth se sont rendus compte que comme par hasard, ce Boaz était cet homme, elle dit Naomi, et notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Comme par hasard. Vous savez, le hasard n'est pas une notion biblique. Il y a une loi, c'est la loi de cause à effet dans l'Écriture. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qu'un homme cherche, il le trouvera. Puis par la suite, Boaz demande à Ruth de devenir sa femme. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Et ça continue de mieux en mieux. Et Ruth devient donc la propriétaire du champ dans lequel elle glanait. Elle devient la maîtresse des servantes qu'elle accompagnait. Si ce n'est pas être béni, ça! Tout s'est mis en place pour avoir été dans le plan de Dieu, pour être retourné dans le plan de Dieu. D'ailleurs, en enseignant au passage, Boaz s'est intéressé à cette femme, non pas seulement parce qu'il l'a vue ou qu'il l'a trouvée pas mal, hein, mais à cause de la renommée de femme de bien qu'elle avait. Ruth 2.10, Ruth s'inclina. « Pourquoi m'accueilles-tu, dit-elle à Boaz, avec tant de faveur, et t'intéresses-tu à moi ? Qui ne suis qu'une étrangère. » Et Boaz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de son mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Elle avait une renommée. Quelle est notre renommée ? Est-ce qu'on a la renommée d'être des enfants de Dieu qui sont des gens de paix ? Ou alors on dit de nous, tu sais, lui il parle par 15 versets à la minute, mais quand tu le rencontres dans la rue, il vaut mieux changer de trottoir, sinon tu t'en décolles plus. Est-ce qu'on apporte la paix où on va? Est-ce que les gens ont envie de notre présence? Ou ils disent... Non, mais c'est la question à se poser. Parce qu'il y a la sanctification, la vraie qui vient de Dieu, et il y a le semblant de sanctification. On a l'air très spirituel, mais plus personne ne peut nous supporter. Moi, j'appelle ces gens... Des gens qui sont allés jusqu'au quatrième ciel. C'est Dieu, lui, il est au troisième ciel. Mais eux, ils sont encore plus spirituels que Dieu. Ils montent encore plus haut. Ils montent au quatrième ciel. Même Dieu, il ne les suit plus. Alors moi, quand je rencontre ces gens, je leur dis, vous êtes trop spirituel pour moi. Dieu, il vous parle toute la journée, toute la journée, toute la journée. Ouais. Je crois que Dieu doit nous parler tous les jours, mais il y a certaines personnes, tout ce que Dieu leur dit, ça nous amène dans des galères, rien d'autre. Quand Dieu parle, il se produit le miracle. Il faut que les gens qui nous rencontrent n'aient pas l'impression qu'on descende de Mars. Qu'on les comprend, qu'on parle le même langage qu'eux. Dieu parlait le langage des gens de la rue de tous les jours, de la vie de tous les jours. Alors je peux être au bon endroit, faire les bonnes choses, mais si j'ai semé auprès des autres de mauvaises graines, ça ne m'empêchera pas de récolter de mauvaises graines. Donc que dois-je faire ? Pas me culpabiliser à l'écoute de ce message ce soir, quoique un minimum de culpabilité ça fait pas de mal, alléluia, pour réaliser son erreur, amen. Mais je dois rectifier le tir et apprendre à semer différemment. Où m'emmener les semences que j'ai semées hier ? Et qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce que je récolte aujourd'hui ? Donc je vais apprendre à semer dans les domaines où je ne suis pas satisfait de mes récoltes, à semer différemment. Vous avez des gens qui reproduisent sans arrêt les mêmes erreurs. Ils se marient avec quelqu'un qui est violent, qui boit, qui les traite mal. Et lorsqu'ils se remarient, ils choisissent exactement le même genre de gars. Il faut tirer un enseignement de la vie. Vous me suivez ? Toujours ? La Bible nous dit que Dieu nous a donné son esprit qui est un esprit de sagesse. Un autre enseignement intéressant à tirer au passage, c'est que pour Naomi, être hors du plan de Dieu était d'avoir quitté son pays, d'accord ? Mais pour Ruth, c'était le contraire. Quitter son pays dans Moab était pour elle le plan de Dieu. Donc vous voyez, on ne doit pas bâtir son expérience sur l'expérience d'un autre. Parce que ce qui est bon pour un va détruire l'autre. Si tu entends le témoignage de quelqu'un qui a donné sa voiture et Dieu l'a béni, et que tu sors, tu donnes ta voiture, tu risques de marcher à pied longtemps. Parce que Dieu lui a dit à lui de donner sa voiture, il t'a pas dit à toi obligatoirement. Et Dieu, permettez-moi l'expression, elle peut paraître exagérée, il n'aime pas le parasitage spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire le parasitage spirituel ? Ça veut dire que je veux vivre au crochet des expériences des autres. Ce qui m'évite de chercher Dieu pour moi-même. Mais Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous. Et nous dire à chacun ce que nous devons faire, différemment de ce que doit faire l'autre. Qui nous devons être ? Différent de qui est l'autre. Il a dit à Pierre, toi suis-moi. Et Pierre lui a dit, mais l'autre, la jambe, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais lui, c'est pas pareil. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. De quoi tu t'occupes? Nous, on aimerait s'occuper de la vie des gens, des autres églises. Qui nous a établis pour nous occuper de leur vie? Déjà, on a assez de boulot à s'occuper de la nôtre. Dans notre enseignement n'est pas ne quitte pas ton pays, ton assemblée, mais ne quitte pas ou reviens dans le plan de Dieu pour toi. Hello. Amen. Voilà l'enseignement. Ne rentrez pas chez vous en disant, Claude Payen, il a dit qu'on doit partir. Shérif, fais tes valises, on doit partir. Je sais pas, mais on part. Cherchez la face de Dieu ensemble. Alléluia. Alors ce n'est pas avec une mauvaise intention que Naomi et son mari avaient quitté Bethléem, Israël. À la rigueur, il se peut fort qu'ils avaient une bonne intention, et je le crois, apporter un meilleur avenir à leurs enfants. Mais les bonnes intentions nous perdent lorsqu'elles ne sont pas de l'esprit mais de la chair. Pierre était plein de bonnes intentions lorsqu'il a dit à Jésus, qu'il lui annonçait qu'il allait être crucifié, « Seigneur, cela ne t'arriverait pas. » Il venait d'apprendre que Jésus, son ami, allait souffrir. Je me mets à sa place. T'inquiète pas, Seigneur, je suis là. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, très bien, Pierre, quel ami. Il lui dit, arrière de moi, Satan. La douche froide. Parce que Pierre avait une bonne intention, mais une bonne intention humaine. Et Jésus a dit, la chair ne sert de rien, même dans ses bonnes intentions. Ce que nous sommes appelés à voir, c'est les bonnes intentions de Dieu. Éphésiens 2:10 nous dit que nous sommes appelés à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous sont des œuvres bonnes, puisqu'elles sont les œuvres d'un Dieu bon. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ça ne signifie pas que toute œuvre bonne correspond aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous suivez toujours? Nous devons discerner entre les œuvres bonnes de la chair et celles qui sont inspirées par l'esprit. C'est bien, c'est une œuvre bonne d'aller bâtir un hôpital aux Indes ou en Afrique. Mais la question est-ce que Dieu m'a demandé de le faire? S'il ne m'a pas demandé de le faire, pendant que je fais des œuvres bonnes, que je suis inspiré à faire par la chair, je suis dans la désobéissance parce que ces œuvres me prennent le temps que je devrais passer dans les œuvres préparées d'avance pour Dieu. Hello? Donc je peux être dans la désobéissance en faisant de bonnes choses. Vous me suivez toujours? Hein, ça va? Moi aussi, je me suis. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, ma prière, c'est souvent « Dieu, montre-moi ce que tu attends de moi et montre-moi ce que tu n'attends pas de moi. » Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses pour Dieu que Dieu ne m'a jamais demandé de faire pour lui. Là aussi, il y a des connaisseurs? Aujourd'hui, je viens d'avoir 54 ans, j'ai plus envie de perdre du temps, je ne sais pas pour vous. J'ai rien à prouver. Tout ce que je veux, Seigneur, ta volonté. J'entends ta voix, tu me dis « Prends la guitare, casse cela et passe à autre chose. » On prend la guitare, on la casse, on passe à autre chose. Alléluia. Ce qui est important, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Nos bonnes intentions humaines peuvent être plus dangereuses que nos mauvaises intentions. Parce que c'est plus facile de reconnaître les mauvaises intentions et les mauvaises idées que les bonnes mauvaises. Vous recevez quelque chose ce soir? Il y a deux expériences qui me touche directement et qui image et résume un peu tout ce que j'ai dit là. Ma première fille, qui s'appelle Naomi aussi, il y a plusieurs années, m'a demandé de prier avec elle pour savoir si elle devait s'engager dans l'organisation Jeunesse en Mission. Et nous avons prié, nous avons reçu tous les deux la conviction que oui. Et pour chaque école de Jeunesse en Mission, parce qu'elle en a fait plusieurs, elle m'a demandé de prier avec elle. Nous avons prié chaque fois pour avoir la conviction que c'était bien le plan de Dieu. Spécialement avant qu'elle s'engage pour aller en Écosse. Eh bien là, elle a rencontré son mari, dont on ne peut douter aujourd'hui, qui lui a été donné par le Seigneur. Lui-même, il avait fait sa première école de disciples et avait décidé de s'engager à Jeunesse en Mission. La même année que Naomi, dans un lieu différent, ils ont fini par se rencontrer en Écosse. Dans le plan de Dieu, on fait les rencontres de Dieu. Mon autre fille, Elisa, a vécu deux expériences. L'une formidable, je ne sais pas si c'est français, mais avec un peu d'eau, ça deviendra formidable. Hop! Là, c'est mal parti pour formidable. Voilà. Vous m'observez là, je crois. Non, on coupera mon montage. Donc ma deuxième fille a vécu deux expériences, l'une formidable et l'autre des plus douloureuses. Parce qu'elle a été dans le plan de Dieu à une période de sa vie, le plan parfait de Dieu, et elle est sortie de ce plan à une autre période. Elle a eu à cœur, donc, suite à certaines rencontres, il y a plusieurs années, de s'engager en Norvège, dans une autre organisation chrétienne, pour les jeunes gens. Et nous avons prié ensemble, et nous avons reçu que c'était bien de Dieu qu'elle s'engage. Et les portes se sont ouvertes pour elle, au-delà de celles qu'elle pouvait imaginer. Il a été pourvu financièrement. Peu après, le premier rôle, alors qu'elle n'avait rien demandé, dans une comédie musicale, lui a été donné. Et ma fille, à 20 ans, se retrouvait en train de prêcher devant des centaines de jeunes gens. L'année suivante, elle n'avait pas de conviction pour renouveler son engagement et continuer avec cette organisation, qui est très bien. Et nous avons prié de nouveau ensemble et nous avons tous les deux reçu très clairement qu'elle ne s'engage pas pour une deuxième année. Et puis, entre-temps, elle est remontée en Norvège. Et des personnes bien intentionnées, et c'était fait avec les meilleures intentions du monde, et même parmi les responsables même, ont réussi à la convaincre de se réengager pour une année. Si bien qu'elle n'a oublié ce que nous avions reçu ensemble dans la prière. Alors au départ, tout semblait humainement super de nouveau, Mais non seulement il n'a pas été pourvu financièrement, comme l'année d'avant, mais ma fille est tombée gravement malade en cours d'année. Ma femme a dû monter en Norvège. En pleine tournée, elle a été frappée comme par l'adversaire, oui. Elle est tombée si malade que ma femme a dû la ramener dans le sud de la France. Il s'en est suivi une opération très lourde, une longue récupération. Voyez-vous, sortir du plan parfait de Dieu lorsqu'on se trouve en première ligne dans l'armée de Dieu, ça a plus de conséquences que quand on est juste un simple chrétien qui vient réchauffer une chaise le dimanche matin. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont calculé le prix ? Parce que l'adversaire met plus d'efforts à nous détruire et il a plus de droits pour le faire lorsque nous nous éloignons du plan de Dieu. Et même des gens qui nous veulent du bien peuvent mal nous influencer. Car la direction de Dieu est quelque chose de personnel que doivent confirmer d'autres, mais d'autres ne doivent pas faire de pression sur nous. Et quand on n'est pas assez affermi dans son identité, on va laisser d'autres personnes nous amener à remettre en doute tout ce que l'on a reçu et à changer nos plans. Si vous ne savez pas ce que vous voulez à un moment donné pour votre vie, vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui va savoir pour vous. Hello ? Et qui peut diriger votre vie dans les 20 années à venir. Et parfois ce sont les gens qui nous aiment, ça peut être nos parents. Mon père n'a pas réussi à devenir telle et telle chose, il veut s'accomplir à travers moi. Mon père était peut-être pasteur, alors il partait du principe que je devais devenir pasteur. Mais moi, peut-être, je veux vendre des frites sur la place d'Angers. Et Dieu m'utilisera puissamment si c'est là qu'il m'a mis. Je peux être un puissant évangéliste sans prêcher en vendant des frites. Et il y a beaucoup de gens, peut-être, qui prêchent l'évangile sur des estrades qui devraient vendre des frites aujourd'hui. Et vice-versa. Peut-être qu'il y a des gens à qui on n'a jamais donné leur chance pour tenir un micro et prêcher, qui sont puissamment loin, alléluia, et ils sont obligés de vendre des frites aujourd'hui. Je vois que vous suivez toujours. Donc par la force des choses, ma fille a reconstruit sa vie pendant un moment dans le sud de la France. Et la suite de l'histoire, alléluia, parce qu'il y a une suite de l'histoire. Un jour, mon épouse et moi-même, nous avons été invités à animer la louange pour une soirée spéciale sur Israël et sur la signification de la Pâque juive en parallèle avec ce que Jésus avait accompli. Et à cette soirée, nous renouons avec des personnes précieuses. Et avant de rentrer chez nous, dont l'organisateur, l'évangéliste, qui est un ami, me dit qu'il nous fera parvenir une offrande. Et cet évangéliste nous avait aussi invités comme orateur, 2 mois ou 3 mois après, à un camp de 5 jours près d'Annecy, tout frais payé. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, chez nous, après cette première soirée, je reçois dans mon cœur de laisser cette offrande à l'évangéliste et je lui envoie un mail pour lui dire « Dieu a mis sur mon cœur que tu gardes cette offrande, alléluia, et tu la gardes pour ton œuvre. » Et je reçois immédiatement un autre mail, nos mails se croisent et lui venait de recevoir dans son cœur qu'il devait payer le séminaire d'Annecy à ma fille. Donc on est parti du principe que j'acceptais son offrande, il acceptait la mienne. Et que c'était bien dirigé par Dieu. Donc ma fille, qui n'aurait pas dû venir à ce séminaire dont nous étions orateurs, est venue avec nous parce que tout lui était payé. Et là-bas, parmi les orateurs, il y avait un jeune homme, un jeune évangéliste, qu'elle a rencontré. Et ils se sont mariés il y a 3 mois. Amen. Être au bon endroit. Vous voyez l'importance de l'offrande. Il ne faut pas négliger les offrandes. Ça a démarré comment cette bénédiction ? Une offrande que Dieu nous a mis à cœur de faire. Nous avons obéi. Et lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a obéi. Et nos mails se sont croisés. Il n'a pas eu le temps de lire mon mail que je recevais déjà le sien. Vous croyez que Dieu est vivant ? Amen. Une chose qui caractérise le plan de Dieu... C'est la bénédiction. Je répète, une chose qui caractérise le plan de Dieu, c'est la bénédiction. Maintenant, ce que je veux partager ici peut être mal interprété. Donc, veux préciser que je ne veux pas vous enseigner que dans le plan de Dieu, il n'y a que la bénédiction et qu'il n'y a pas d'épreuve. Bien sûr, Naomi a vu arriver la famine à Bethléem, alors qu'elle était à la place où Dieu la voulait. Donc vous voyez, dans le plan de Dieu, ça secoue parfois. Je ne nie pas cet état de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais dans le plan de Dieu, la bénédiction est toujours obligée de revenir parce que ce plan est déjà béni. Hello? Ce qui caractérise le plan de Dieu, c'est pas qu'il n'y a pas d'épreuves. Nous savons tous qu'il y a des épreuves dans le plan de Dieu. Parfois même, lorsque tu essaies de rentrer dans le plan de Dieu, l'enfer se déchaîne. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a plus de bénédictions que d'épreuves. Et c'est ce qui te donne envie de continuer. Mais quand il y a plus d'épreuves que de bénédictions, au bout d'un moment, tu dis qui est le plus fort, Dieu ou le diable? Ce qui caractérise le fait d'être hors du plan de Dieu, c'est qu'il y a plus d'épreuves que de bénédictions. Et ce qui caractérise le plan de Dieu, c'est qu'il y a plus de bénédictions que d'épreuves. Parce qu'à un moment donné, quelles que soient les épreuves, la bénédiction finit toujours par remonter à la surface, parce que le plan dans lequel tu te trouves est déjà béni. Tu finis toujours par marcher sur un œuf dans le jardin, au moment où tu n'as pas prévu. C'est pas toujours le jour où tu as jeûné, tu as prié, tu en as fait plus que d'habitude. Vous connaissez ces matins où vous vous sentez plus minable que la veille, et Dieu vous bénit. Parce que la bénédiction qui avait été placée là à l'avance, ce jour-là, vous tombez dessus. Ça donne envie d'être à l'écoute de Dieu pour savoir où aller. Amen. Peut-être quelques versets pour confirmer. Ésaïe 45:3. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu veut confirmer, nous dit ces versets, qu'il nous a appelés en nous donnant des trésors cachés. Les trésors cachés ne sont pas toujours des trésors qui sont loin. Il y a des choses qui peuvent être cachées sous ta chaise, là. Ils ne sont pas loin, mais si tu ne le sais pas. Regardez sous vos chaises, on ne sait jamais. Vous savez, on vit dans un monde où, et parfois même dans l'église, on développe la peur chez les gens. La peur, ah, il y a un virus, tu risques d'attraper froid. Non, parlons différemment, tu risques d'attraper une bonne bénédiction ce soir. Ça va te sauter dessus, là, tu t'y attends pas, et tu repartis béni. Il y a de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Arrêtez de croire les gens qui vous disent, ah, il va arriver ceci, il va arriver cela. Si vous le croyez, c'est ce qui va arriver. Parce qu'il nous est fait selon notre foi. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre d'une personne d'insulte. Et la personne m'a maudit. Alors j'ai dit, Seigneur, je me laisse pas impressionner. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'a amené un verset qui dit, s'ils maudissent, toi tu bénis. Et ils seront confus et tes serviteurs se réjouiront. Et la semaine qui a suivi, j'ai jamais été béni comme ça. Vous savez, souvent les chrétiens, ils mettent leur foi dans ce que le diable fait pour les impressionner. Ils reçoivent une lettre comme ça où quelqu'un leur parle méchamment et ils disent, ah oui, c'est ce qui va m'arriver. Oh là, zut alors, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. C'est pas ce genre de prière qui nous protège. Nous n'avons pas à craindre ces choses-là. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, que tu rentres dans ses plans, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est pas être béni, ça? Vous voulez pas voir l'Église ou une partie de l'Église glorieuse, devenir la tête au lieu d'être la queue? Au lieu d'être toujours en retard d'une coudée sur ce que le diable y fait, être en avance, alléluia, et le diable qui court derrière, qui n'arrive pas à suivre. À l'époque, Amy Michael McPherson, aux États-Unis, une femme de Dieu, elle était tellement originale, elle avait tellement de dons qu'elle créait des décors pour imager ses prédications. Un jour, elle a prêché sur Jonas, elle avait fait construire en bois une baleine. Elle prêchait assise dans la bouche de la baleine. Et c'est les studios Hollywood, puisque c'était Los Angeles, qui venaient dans son église pour trouver des idées pour leur décor. Ça, c'est quand l'église est à la pointe. Nous, souvent, on a les gens qui vont dans le monde. Oh, je vais aller voir, je vais acheter un livre sur le sexe pour savoir comment ça marche. Je vais... On est toujours en retard. C'est nous qui devons enseigner les gens comment ça marche, le sexe. C'est Dieu qui l'a créé. Hello! On n'a pas à devenir tout rouge dès qu'on parle de ce sujet. C'est nous qui devons enseigner les gens. Sinon, ils vont en trouver des gens dans le monde pour mal les enseigner là-dessus. Moi, je crois à l'Église glorieuse qui a toujours une longueur d'avance sur le diable. Il y a quelque temps, ils sont partis en Israël. On a vraiment senti que cette invitation venait du Seigneur. Le matin, avant de partir, je crois que c'était 7h du matin, je vais sur mon compte en banque, 4000 euros. Le matin où je pars en Israël pour obéir au Seigneur, où je mets tout l'argent qui me reste dans ce voyage. Je pars avec 0 centime, et avant même d'avoir pris l'avion, une offrande que je n'attendais pas. Il doit y avoir un Dieu quelque part. Et vous comprenez? J'ai le droit de prêcher ce genre de message. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui prêchent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, qu'ils n'ont jamais vécues. Or, je crois de plus en plus, les prédicateurs doivent prêcher ce qu'ils vivent et vivre ce qu'ils prêchent. Nous en avons assez des gens qui prêchent des choses qu'ils ne vivent pas. Nous en avons assez des gens qui nous parlent de l'amour et qui rentrent à la maison et crient comme des malades après leurs femmes et leurs enfants. Alors je leur dis souvent, venez crier à l'église, soyez calmes à la maison. Ah, c'est des gens qui parfois dans la louange, ils sont très calmes. On regarde tous les gens, mais ils arrivent à la maison, c'est des furieux. Soyez furieux ici, alléluia, contre l'adversité. Soyez gentils à la maison, avec votre femme, avec vos enfants. Gloire à Dieu. Dans la volonté de Dieu, je vais terminer. Il peut y avoir des temps de famine, bien sûr. L'apôtre Paul dit, je sais être dans la famine. Et il dit aussi, je sais être dans l'abondance. Mais on doit ne faire que passer dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est biblique de passer par la vallée de l'ombre de la mort. On n'est pas supposé construire une maison dans la vallée de l'ombre de la mort. Je passe et j'accélère le pas parce que j'ai pas envie de rester longtemps. Je sais pas pour où. Je fais que passer. Le diable il me dit, tu veux pas construire un petit truc là? Tu veux pas une chambre? Non! C'est assez pénible comme ça. Et si je rencontre un chrétien bien intentionné qui me dit, mais non, c'est le plan de Dieu, il faut souffrir encore, je lui dis, reste toi. Moi, je continue. Il y a assez de souffrance en étant dans le plan de Dieu sans qu'on en rajoute. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas dit que ça serait facile même dans son plan. Ce n'est pas mon enseignement ce soir. La Bible dit que le juste, lorsqu'il passe dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Ce n'est pas le monde qui doit me transformer, c'est moi qui dois transformer le monde. C'est moi qui dois transformer les situations. Ce n'est pas aux situations de me transformer. Alléluia, ce n'est pas à moi de faire de la dépression, c'est au diable. Chaque fois que les démons viennent t'attaquer, tu es devenu un homme tellement positif dans la parole de Dieu que tu t'écris « Loué soit l'Éternel ». Alors c'est comme une gifle qu'ils prennent chaque fois. Ils vont trouver Satan, leur maître, ils disent « On voudrait être muté ». Donne-nous un autre chrétien, un de ces chrétiens qui démarre au quart de tour là. Plus lui, ça nous fait trop souffrir. Donc rappelez-vous, allez toujours dans la direction opposée dans laquelle le diable veut que vous alliez. Dépression, non, joie, la joie du Seigneur est ma force. À la joie, c'est pas toujours un état, ça devient un état, mais d'abord c'est un choix. Parce que l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Il est impossible dans la chair d'être toujours joyeux. Donc la seule solution pour croire que Paul était sérieux lorsqu'il a dit cela, c'est que la joie soit un choix. Et à l'époque de Néhémie, lorsqu'ils étaient tentés à l'écoute de la loi, de tomber dans la dépression et de pleurer, Néhémie, il a vu le coup arriver, il les a exhortés, n'allez pas dans cette direction, car la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Amen. Le diable, il sait que si t'amènes sur le terrain de la dépression, il est gagnant. Ne va pas sur son terrain. Amène-le dans ton terrain. Amène-le dans ta sphère d'autorité. Dis-lui, viens. Souvent, il te tente. Il dit, viens là. Dis, non, non, viens toi. Et il te déteste tellement qu'au bout d'un moment, il va venir. Amen. Laisse-le venir. Et là, il rentre dans ta sphère d'autorité. Et là, Dieu, il a pouvoir pour que tu écrases la tête. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à examiner notre position. Ça peut être notre position vis-à-vis d'un lieu physique, mais aussi notre position dans des tas d'autres domaines. Notre position vis-à-vis de la justice de Dieu. Est-ce que je me considère comme étant juste ou comme étant un misérable petit pécheur? Nous avons chanté ce soir, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alors, il faut que je comprenne que la notion de justice, selon Dieu, c'est que je ne suis pas juste, de toute façon je ne peux pas, parce que tout ce que je fais est parfait. Je suis juste parce que j'ai été déclaré juste, parce que Jésus a vécu à ma place une vie de justice. Du sein de mes imperfections, je suis déclaré parfait. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous a présenté devant lui, pur, saint et irrépréhensible, pas devant les hommes, devant ma femme, je ne suis pas pur, saint et irrépréhensible. Quoi, je m'améliore, hein? Tu veux leur dire?
Tu es encore de boulot, mais...
Ouais, non, dis-le. Eh, il faut m'encourager quand je vois ça. Ça avance bien, oui. Alléluia. Dieu nous a déclarés justes. Si je garde une notion de misérable petit pécheur, le diable a une ouverture. Je suis hors du plan parfait de Dieu par rapport à la justice de Dieu. Est-ce que je suis dans la foi ou dans l'incrédulité? Dans notre position vis-à-vis des relations avec les autres, est-ce que je suis un homme de paix ou un chrétien de dispute? Et certains chrétiens, vous avez l'impression qu'ils sont devenus tellement compliqués. Ils résonnent un peu en vous disant, donnez-moi quelque chose de simple, et en 5 minutes, je vais vous le rendre compliqué. Alors que notre ministère, c'est tout le contraire. C'est prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et le rendre simple. Vous savez comment on reconnaît un ministère ou un chrétien qui apporte la paix? C'est que ce n'est pas trop compliqué. La vie est déjà assez compliquée. S'il faut apprendre les 50 points pour être délivré, quand j'arrive au 10e, je ne me rappelle plus ce que disait le premier. Alors quand je vais arriver au 50e, comment je vais faire? Notre position dans notre caractère, dans notre jugement, dans notre identité. Chacun de ces points, si on est bien positionné, attire bibliquement au bout d'un moment, pas de suite, la bénédiction, mais ouvre une porte à Satan si on est mal positionné. Mais si nous demandons au Seigneur de nous montrer, comme Naomi, comme mon Elisa, on peut renverser la situation et ramener la bénédiction. Et le Seigneur a commencé à insister là-dessus hier soir. Je crois qu'il y a des paroles particulières pour plusieurs et des situations qui vont être renversées. Ramener la bénédiction. Ramener la bénédiction. Est-ce qu'on peut lever nos voix tous ensemble et nos mains? Hallelujah. Kora barakavarabara.